votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cet appel sur l'actualité, ravi de vous accompagner. C'est votre émission, vous posez vos questions, vous réagissez à l'actualité. Dans une demi-heure, notre débat du jour, faut-il croire aux signes de pacification ou en tout cas de détente dans la Corne de l'Afrique? L'Érythrée et l'Éthiopie ont mis fin officiellement à 20 ans d'état de guerre. L'Érythrée qui a aussi amorcé un rapprochement avec la Somalie. Pendant ce temps, les belligérants du Soudan du Sud, sous le patronage de leurs voisins, ont signé dimanche un accord de partage du pouvoir. Alors vous nous dites ce matin si vous croyez à ces signaux positifs, comment vous expliquez ces perspectives qui soudain s'éclaircissent dans une région pourtant habituée à de longs conflits meurtriers. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 33 9 693 693 70. On vous attend de même que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Mais d'abord, comme chaque matin, l'équipe d'Appel sur l'actualité tâche de répondre à vos questions avec tout d'abord ce sujet qui fait la une de vos journaux sur RFI depuis dimanche matin. Le président vénézuélien Nicolas Maduro qui aurait été la victime d'une tentative d'attentat, ce qui a fait beaucoup de bruit bien sûr dans son pays et en Amérique du Sud, et cette information qui a beaucoup intéressé Marius. Bonjour Marius.
Oui, bonjour monsieur François Mazet, bonjour à toutes les petites affaires sur l'actualité.
Vous êtes auditeur de RFI à Abidjan, oui, vous nous écoutez sur 97.6 FM si je ne me trompe pas. Et vous avez été surpris d'entendre que Nicolas Maduro accusait son voisin, le président colombien Juan Manuel Santos, d'être derrière cette tentative d'assassinat.
Oui, tout à fait. À ce sujet, j'ai quelques questions. À savoir, de quelles preuves dispose-t-il pour tenir ces accusations?
C'est une bonne question. Et pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'université Paris 8 et spécialiste du Venezuela. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce n'est pas un secret que les deux pays ont depuis longtemps des relations très difficiles. Caracas voit souvent Bogota comme une puissance soumise aux États-Unis. Mais le Venezuela a-t-il donné des preuves d'une implication colombienne?
Non, à ce stade, on n'a pas des preuves particulières de l'implication de Bogota. C'est simplement des accusations de Nicolas Maduro envers son homologue colombien Juan Manuel Santos.
Alors forcément, Marius, vous vous interrogez sur les conséquences de telles accusations, mais surtout, vous voudriez en savoir davantage sur le groupe qui a revendiqué cette attaque.
Oui, voilà, je voulais savoir, il y a un certain groupe qui a revendiqué l'attaque, je voulais savoir de quel groupe s'agit-il.
Alors Thomas Posado, ce groupe qui a assuré dans un texte être derrière cet attentat aux drones qui ont explosé, un texte de revendication signé Mouvement National des Soldats en Chemise. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe?
Ce groupe, il était inconnu jusqu'à dimanche. C'est visiblement un petit groupe formé de soldats et de civils qui a mené donc cette action un petit peu sans grande préparation, un petit peu désespéré contre Nicolas Maduro, et qui rappelle un petit peu certaines actions qui avaient eu lieu un an auparavant. Il se réfère notamment à un ancien policier qui avait volé un hélicoptère et qui avait attaqué à la grenade le tribunal suprême de justice et le ministère de l'Intérieur au Venezuela, qui avait été abattu par les forces de l'ordre quelques mois plus tard, et qui est devenu un peu un héros populaire dans certains secteurs de la population vénézuélienne. On avait eu aussi une attaque d'une base militaire par une vingtaine de militaires et de civils, donc des actions qui sont relativement isolées, qui se basent sur une situation économique et politique du Venezuela qui est particulièrement chaotique. Et notamment dans les revendications, bon, on a ces revendications sur l'éducation, sur la santé, qui se dégradent au Venezuela, avec quelques déclarations assez anticommunistes, mais qui sont assez propres à ces secteurs d'opposition extrêmement radicaux, et un petit peu désespérés par la situation où ils ne voient pas de perspective à court terme, et mènent des actions qui sont un petit peu très radical en violence, mais sans grande préparation pour mener à bien leur objectif.
Mais les opposants vénézuéliens, eux, souvent dénoncent des mensonges de la part du président Maduro après ces événements.
Sans doute, oui. Après, il faudrait une enquête indépendante pour savoir qu'est-ce qu'il en était de chacune de ces affaires, quel est le degré de, d'implication de l'État, qu'est-ce qui a été fait, quels étaient réellement les moyens mis en œuvre pour déstabiliser le gouvernement. Après, ces actes, il y en a eu plusieurs. Hein. Enfin, voilà, l'attaque à la grenade du ministère de l'Intérieur et du tribunal suprême de justice, ça a été des attaques qui ont été réellement menées par un homme qui a été réellement abattu par la suite, qui était abattu pendant des conditions très polémiques, parce que enfin, visiblement, tout n'a pas été fait pour l'arrêter en vie. Toutes les incertitudes restent évidemment sur ce qui s'est passé samedi, vu qu'on est trois jours après, qu'il n'y a pas eu d'enquête indépendante et qu'il y a encore beaucoup d'hypothèses sur ce qui s'est passé. Mais visiblement, cette revendication, c'est un groupe qui est assez peu connu et qui aurait mené une attaque contre Nicolás Maduro à partir de la situation économique et politique très grave que vit le Venezuela.
Et qui, selon donc le gouvernement vénézuélien, aurait eu le soutien de Bogota, de Juan Manuel Santos, qui d'ailleurs cède aujourd'hui son fauteuil présidentiel à Ivan Duque. Et Marius, vous vous interrogez hein, sur les conséquences de telles accusations sur les relations entre les deux voisins.
Oui, tout à fait. Quel impact ces accusations peuvent-elles avoir dans les relations déjà compliquées, voire même très mauvaises, entre Caracas et Bogota?
Thomas Posado.
Que viendrait-il si ces accusations sont avérées?
Oui, merci Marius. Thomas Posado, qu'adviendrait-il oui, si ces accusations étaient avérées?
Alors, est-ce qu'on saura un jour si ces accusations sont avérées? C'est assez peu probable. Hein. Enfin, déjà, ces accusations sont peu probable en soi, mais la vérification de ces accusations, à moins de la révélation d'un secret d'État en Colombie, c'est pas l'hypothèse la plus probable. Qu'est-ce qui va advenir des relations Venezuela-Colombie? Elles vont sans doute se dégrader, mais à la limite, s'il y aurait eu ces accusations, s'il n'y avait pas eu ces accusations, pareil, parce que vous le disiez, Juan Manuel Santos quitte aujourd'hui son poste de président de Colombie en faveur donc de Iván Duque, qui a été élu il y a de ça quelques semaines. Et Iván Duque, c'est le représentant de la droite la plus dure en Colombie. C'est un proche d'Alvaro Uribe qui, lui, était pour mettre en place un renversement aussi brutal qu'il soit de Nicolas Maduro. Et l'arrivée au pouvoir de cette droite la plus dure en Colombie est pas du tout annonciatrice d'une détente entre les deux pays. Bien au contraire, il devrait même s'accentuer. On n'est pas à l'abri de coup de théâtre, de renversement de situation, mais a priori, il devrait y avoir encore un durcissement au-delà même de ces accusations, d'autant plus que la Colombie reçoit des centaines de milliers de Vénézuéliens liés à cette crise économique, liés à des Vénézuéliens qui fuient le fait que la monnaie vénézuélienne ne vaut plus rien, que leur pouvoir d'achat est réduit à néant. Et donc vont trouver une situation économique un peu plus vivable de l'autre côté de la frontière. Donc c'est des thématiques qui pourrissent les relations Venezuela-Colombie, au-delà de l'affrontement géopolitique interposé avec les États-Unis, où la Colombie est traditionnellement le pays, l'allié le plus proche des États-Unis dans la région, et où le Venezuela s'est fait, au moins depuis la période d'Hugo Chavez, le pourfendeur de l'impérialisme états-unien. Donc on a des relations qui n'ont pas vocation à s'améliorer, et ces accusations, qu'elles soient vérifiées ou qu'elles ne le soient pas, tendent encore une situation qui est déjà extrêmement tendue.
Exécrable entre les deux pays. Merci Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8. Et merci à Marius, vous restez fidèle à RFI à Abidjan. Direction Brazzaville maintenant, où nous attend Modé. Bonjour Modé.
Bonjour François, bonjour toute l'équipe d'RFI à l'actualité et ses auditeurs.
Merci Modé, merci pour eux. On devine que vous aimez les feuilletons car vous avez une question sur ce feuilleton qui tient l'Amérique et le reste du monde en haleine. C'est sur l'enquête russe. Nous vous écoutons.
Justement, le président Trump récemment a publié un tweet dans lequel il demandait au procureur Mueller de stopper l'enquête sur les ingérences russes à l'élection présidentielle de 2016. La question est de savoir, est-ce que le président Trump a-t-il le pouvoir d'interrompre cette enquête?
Et c'est Françoise Coste qui va vous répondre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la politique intérieure des États-Unis à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Alors Donald Trump peut-il mettre un terme à ses investigations?
Alors, directement, non, mais indirectement, oui. Donc, c'est un peu compliqué parce que traditionnellement, aux États-Unis, les enquêtes contre visant le président sont gérées par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice aujourd'hui, c'est Jeff Sessions, qui était un des proches conseillers de Trump pendant la campagne et qui est lui-même impliqué dans ce feuilleton dont vous parlez, puisque pendant la campagne, il avait rencontré des émissaires russes. Donc, il s'est récusé de l'enquête pour éviter le conflit d'intérêts, pour d'être jugé parti. Résultat, c'est son numéro 2 au ministère de la Justice, Rod Rosenstein, qui est chargé de l'enquête et qui est le chef direct du procureur Mueller. Donc la seule personne qui peut virer Mueller, c'est ce Rosenstein, qui est l'adjoint au ministre de la Justice. Donc Trump ne peut pas lui-même le virer directement. Ça devrait passer par Rod Rosenstein. Et jusqu'à présent, Rod Rosenstein a été impeccable dans cette histoire et il a couvert Mueller, il a protégé et il a bien expliqué que lui ne voudrait jamais le forcer à interrompre l'enquête.
Modé a aussi une question sur l'avancée justement de ces enquêtes. Allez-y Modé.
Justement, depuis qu'on parle de ces ingérences, on ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé. Et donc, je voudrais savoir en quoi ont-elles consisté réellement, ces ingérences, et quel impact ces ingérences ont-elles eu réellement sur le résultat.
Voilà, Françoise Coste, on commence à avoir une idée des agissements de Moscou et de leur impact.
On commence. Je pense que ce qu'on sait est encore très loin d'être complet, mais il semble que, pour l'instant, la principale ingérence, très concrètement, c'est que le gouvernement russe a ordonné à des hackers russes de pirater les mails de la campagne Hillary Clinton et du leadership du Parti démocrate. Et ces mails ont ensuite été rendus publics par WikiLeaks. Et WikiLeaks a travaillé en tandem avec le gouvernement russe. Et ces mails ont un peu empoisonné la campagne de Hillary Clinton, en particulier parce qu'ils ont révélé que pendant la campagne des primaires, les instances du Parti démocrate avaient fortement soutenu Clinton aux dépens de Bernie Sanders. Elle avait un peu saboté la campagne de Bernie Sanders. Et alors on se demande si ces révélations n'ont pas dissuadé des fans de Bernie Sanders de voter en novembre 2016 pour Hillary Clinton. Ce qu'il y a, c'est que on peut pas quantifier cet impact concret des emails. Donc, on sait que ça s'est passé, mais on ne peut pas savoir exactement combien de personnes ont été touchées par, ont été convaincues de voter autrement par ça. Donc, c'est encore très... C'est pas très clair et on ne peut pas le quantifier.
Modé, vous aviez une question également sur un personnage qui est lié à Donald Trump, plus précisément.
Justement, c'est l'ex-directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, qui est actuellement poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'au cours de son procès sur l'affaire pour laquelle il est poursuivi, qu'il fasse des révélations sur les ingérences russes, si elles ont réellement eu lieu, en espérant avoir la clémence de la justice américaine?
Alors, Françoise Coste, Paul Manafort peut-il lâcher son ancien patron?
C'est la grande crainte de Trump en ce moment. C'est très important de se rappeler, comme l'a dit votre auditeur, que le procès actuel n'a rien à voir avec la campagne elle-même. Mais on peut imaginer, c'est parce que ça fonctionne comme ça dans la justice américaine, que Manafort peut, s'il est condamné, obtenir un aménagement de sa peine ou une réduction de peine de la part du procureur en échange d'informations. Alors, soit sur l'ingérence russe, où là, il donnerait des informations bien plus précises, en particulier sur... Une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les Russes ont donné de l'argent à Trump, par exemple, ce qu'on ne sait pas encore. Ou bien il pourrait aussi faire des révélations sur la vie de businessman de Trump avant qu'il rentre en politique. Comme on dit aux États-Unis, on sait où tous les squelettes sont enterrés, parce qu'il avait été tellement proche de Trump pendant tellement longtemps que s'il y a eu des malversations financières dans l'empire immobilier de Trump, lui le saura, et il pourrait peut-être donc faire des révélations de ce type-là, qui pourrait éclabousser Trump, bien entendu.
Merci Françoise Coste d'avoir pris le temps de répondre à Modé. J'espère également, Modé, que vous en avez appris davantage sur cette affaire d'enquête russe. Tout de suite, cet événement qui a été extrêmement commenté la semaine dernière sur les réseaux sociaux francophones, la bagarre à l'aéroport parisien d'Orly entre deux des plus gros vendeurs de musique en France, les deux stars du rap, Booba et Kaaris et leur clan. Scène allègrement filmée, commentée, détournée notamment à Conakry où nous attend Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour François.
Oui, vous nous confirmez, hein, cette bagarre a été sur toutes les lèvres chez vous.
Oui, la semaine dernière, cette bagarre entre Booba et Kaaris a été commentée par bon nombre d'internautes en Guinée, un peu partout dans nos pays voisins. En fait, suite à ça, j'ai une série de questions.
Allez-y, Abdoulaye.
La première, je voudrais savoir ce qui risque, ça savoir que ces 14 personnes ont été interpellées, ce qui risque, sachant qu'ils ont temporairement paralysé le trafic aérien de l'aéroport.
Et c'est Pierre-Olivier du service France de RFI qui va nous répondre. Bonjour Pierre.
Bonjour François, bonjour Abdoulaye.
Vous avez suivi cette affaire qui a défrayé la chronique. Alors les deux stars pour l'instant sont en prison dans l'attente de leur jugement.
Oui, alors ce qui est important de préciser, c'est que celui qui risque, c'est celui qui sera jugé coupable justement après cette comparution immédiate qui a été reportée à début septembre. Alors ce qu'il risque, la personne qui sera jugée coupable, il y a d'abord des dommages financiers qu'il faudra rembourser. Vous en avez parlé Abdoulaye, la bagarre a entraîné des retards sur 7 vols. Le coût estimé et de 8 500 € pour l'ensemble de 7 vols retardés. Puis il y a aussi une boutique de duty free de l'aéroport qui s'est transformée en terrain de bataille. C'est là qu'a eu lieu une partie de la bagarre. Les deux bandes se sont servies notamment en bouteilles de parfum transformées en projectiles. Coût des dégâts, 54 000 €. Ça aussi, il faudra les rembourser. Et puis, il y a aussi les concerts que les deux rappeurs devaient donner à Barcelone. Peut-être qu'il faudra dédommager certains de leurs fans. Là encore, c'est celui qui sera jugé responsable qui devra rembourser les fans si nécessaire. Alors, il y a aussi 3 plaintes qui ont été déposées contre les rappeurs. D'abord, celle de la compagnie Air France en raison de l'impact de cet événement sur ses opérations. Il y a aussi la plainte du gérant de la boutique dévastée par la bagarre pour dégradation, violence en bande organisée et vol. Et puis enfin, et c'est ce qui pourrait leur coûter le plus cher, l'aéroport de Paris a porté plainte pour trouble à l'ordre public et préjudice d'image et financier. Au total, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour tous ces délits et dégradations.
Alors Pierre, cette scène un peu irréaliste hein, d'une bataille rangée entre quadragénaires, pères de famille très riches devant le duty free d'un aéroport, ça laisse perplexe et comme beaucoup d'auditeurs, Abdoulaye se demande d'où vient cette querelle hein, entre les deux hommes.
Alors juste à l'aéroport, les deux rappeurs se sont retrouvés dans le même hall d'embarquement. Ils devaient aller à un concert à Barcelone. Chacun devait donner un concert dans une boîte de nuit de Barcelone. Alors sur les images officielles de l'aéroport d'Orly, on voit Booba qui vient voir Kaaris et selon son avocat que j'ai eu hier au téléphone, il lui aurait dit « lève-toi salope ». Et c'est de là que serait parti le clash. Évidemment, du côté des avocats de Booba, c'est l'inverse, c'est Kaaris qui aurait fixé Booba dans les yeux et ça aurait provoqué l'agression car Booba se serait senti provoqué. C'est en tout cas à la justice de déterminer laquelle de ces deux versions est la bonne.
Alors Abdoulaye, comme on est un peu pressé, je vais reprendre votre dernière question. Ce n'est pas la première fois que Booba est impliqué dans des clashs avec d'autres rappeurs.
Oui, alors ce qu'il faut savoir c'est que ça fait partie du rap game, hein. Ça vient de la culture aux États-Unis où être rappeur c'est aussi être le meilleur et les rappeurs se comparent entre eux, il faut être le meilleur par rapport à d'autres rappeurs. Et Booba a été l'un des premiers à importer ce rap game en France. Il est donc coutumier du fait. Il s'était déjà clashé avec Lafouine, avec Rof. Et alors que ça devait rester plutôt sur l'aspect artistique et musical à l'origine du rap, petit à petit avec les réseaux sociaux, on a vu que de plus en plus ça devenait réel. Il y avait eu une attaque notamment du magasin de Booba à Châtelet, qui avait une marque de vêtements qui s'appelle Uncut, et le vendeur avait été laissé quasiment pour mort, c'était en 2014. Donc on voit bien que ça dérive un petit peu, mais c'est aussi un argument de vente, et Booba est très coutumier de ce fait-là, et il le sait très bien, il y a fort à parier d'ailleurs, que Booba fera peut-être une chanson sur ce clash à Orly et que les fans de Booba se précipiteront pour l'acheter.
Et ça va marcher fortement. Merci beaucoup Pierre-Olivier d'avoir été avec nous. Et merci Abdoulaye, vous étiez à Conakry pour RFI. Vous restez avec nous, tout de suite c'est le journal.